Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Bangui, bienvenue à notre journal. Au Nigeria, ajournement au 22 janvier du procès de Walter Samuel Nkanu Onogen, le président de la Cour suprême du pays et le plus haut magistrat nigérien inculpé pour fraude dans le cadre de la lutte contre la corruption. Walter Onogen devait comparaître dans la capitale fédérale Abuja devant une juridiction d'exception composée de 3 juges, mais il était absent à l'ouverture de son procès ce lundi dans la capitale. Le principal avocat de la défense, Wole Olanipekun, a justifié l'absence de l'inculpé par le fait que sa convocation judiciaire ne lui avait pas été dûment notifiée, c'est-à-dire remise personnellement comme le requiert la loi dans les affaires pénales. Il a également précisé que les avocats du prévenu allait contester la compétence du tribunal du code de conduite à juger cette affaire. Le président du tribunal, Omar Danladi, a donné droit à la requête de la défense en ordonnant que la convocation de son client lui soit dûment notifiée avant d'ajourner le procès au 22 janvier. Plus de détails sur cette affaire avec Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja.
Le gouvernement fédéral accuse le président de la Cour suprême de n'avoir pas déclaré plusieurs comptes bancaires en dollars et en livres sterling depuis sa nomination à ce poste en 2015. Selon la loi nigériane, tout responsable officiel de haut niveau doit déclarer ses biens et surtout, il est interdit de détenir des comptes en devises lorsqu'on exerce une haute fonction. Le président de la Cour suprême n'est pas le premier à être accusé de corruption au sein de cette haute institution de justice du pays. En octobre 2016, la commission des crimes économiques et financiers avait ordonné un raid de la police sur les domiciles de plusieurs juges fédéraux. 2 juges de la Cour suprême étaient concernés. Au final, ils ont été blanchis d'accusations de corruption. Mais cette dernière convocation à quelques semaines des élections générales et présidentielles suscite des réactions au sein de l'opinion et pourrait alourdir le climat déjà tendu entre le pouvoir judiciaire et l'exécutif sortant. La constitution du Nigeria prévoit que toute accusation de corruption contre un juge fédéral doit avant tout être présentée devant la commission nationale judiciaire qui en principe décide des poursuites.
Au Soudan, le président Omar al-Béchir a assuré ce lundi que le mouvement de contestation dans le pays depuis près de mois n'aboutirait pas à un changement de pouvoir. Déclaration faite devant une foule de ses partisans à Niala, chef-lieu de Darfour Sud, dans l'ouest du pays. Au lendemain des premières manifestations antigouvernementales dans cette région, qui a été le théâtre dans les années 2000 d'une guerre meurtrière. Un conflit qui a opposé les forces gouvernementales soudanaises à des rebelles issus des minorités ethniques et dont le bilan a été de plus de 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés selon l'ONU. Le président al-Béchir est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour répondre d'accusations de génocide et crimes de guerre dans cette région. Au plan politique, le mouvement contestation continue donc au Soudan et les organisateurs des manifestations contre la vie chère à l'origine des protestations ont décidé de passer à la vitesse supérieure en appelant une semaine de soulèvement. Ils continuent de réclamer par ailleurs le départ du président Omar al-Béchir au pouvoir depuis près de 3 décennies. Les précisions de Timothée Donangmaye.
Ils étaient des centaines à manifester dimanche dans les rues de Khartoum, la capitale soudanaise, avant d'être dispersés par des tirs de gaz lacrymogène. Pour la première fois, le mouvement de protestation s'est étendu à la région du Darfour dans l'ouest du pays. Les autorités soudanaises ont revu à la hausse le bilan des manifestations, faisant état de 24 morts, alors que l'ONG Human Rights Watch parle de 40 morts. Les manifestants prennent régulièrement pour cible les bureaux du parti au pouvoir qu'ils incendient. Ils exigent la démission du président Omar al-Béchir au pouvoir depuis 29 ans. À l'origine de leur colère, la flambée des prix des denrées alimentaires du fait d'un taux d'inflation de 60% et ce après la suppression en 2018 des subventions gouvernementales. L'état de l'économie soudanaise n'a cessé de se détériorer depuis que l'indépendance du Soudan du Sud en juillet 2011 prive Khartoum de la majeure partie de ses revenus pétroliers.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Réélection en République démocratique du Congo, la SADC, la Communauté de développement d'Afrique australe, s'est prononcée en faveur de recomptage des voix de la présidentielle controversée du 30 décembre dernier pour, dit-elle, rassurer les vainqueurs et les perdants. Le président zambien Edgar Lungu, président en exercice de la SADC, a également appelé les leaders congolais à considérer un accord politique négocié en vue d'un gouvernement inclusif. Et toujours concernant les élections RDC, l'opposant Martin Fayulu a engagé une bataille judiciaire pour obtenir le recomptage des voix et l'annulation de l'élection de Félix Tshisekedi, donné gagnant à la présidentielle par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. De Kinshasa, plus de détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Martin Fayulu est le seul candidat président de la République à avoir introduit son recours auprès de la Cour constitutionnelle. Le candidat de la coalition Lamuka, opposé au résultat de la Commission électorale nationale indépendante, demande à la Cour de recompter les voix.
On demande à la Cour d'exiger à la CENI les recomptages des voix. La CENI va amener ses PV, nous allons amener nos PV pour confrontation.
Et après la publication des résultats des législatives nationales, la coalition au pouvoir, le Front commun pour le Congo rafle la mise avec près de 350 sièges sur les 500 que compte l'Assemblée nationale de la RDC. L'opposition, la Lamuka et Cap pour les changements réunis, ne se contentant que du reste. Pour Némi Mouilania, directeur de cabinet de Joseph Kabila et coordonnateur du comité stratégique du Front commun pour le Congo, une cohabitation s'impose désormais entre Félix Tshisekedi qui a remporté la présidentielle et la coalition de Joseph Kabila majoritaire au Parlement.
L'évidence, c'est que quand on a la majorité parlementaire, dans un régime semi-présidentiel, donc parlementaire rationalisé, on forme le gouvernement. Et donc il y a une cohabitation qui s'impose. La question, c'est celle de savoir si forcément ça sera une cohabitation conflictuelle ou une cohabitation de collaboration. Je pense que le message du peuple congolais appelle plutôt la classe politique à travailler dans la collaboration.
Les personnes interrogées par Top Congo FM saluent la publication à l'heure de ces résultats.
Les résultats reflètent en fait la voix de la population. Nous avons vu comment est-ce que les députés sont descendus sur le terrain pour faire la campagne. Ils ont eu à déployer plusieurs candidats. Et ils ont vraiment mis les moyens en œuvre.
Nous saluons à juste titre la publication dans le meilleur délai de ce résultat. C'était des élections, en tout cas sanctions, parce qu'il y a des grandes figures de la politique congolaise qui n'ont pas été réélues. Cela montre l'objectivité avec laquelle la population a voté. Ceux qui sont lésés, ils ont l'occasion de pouvoir saisir la justice pour l'étape qui vient juste après la publication.
En ce qui concerne, n'est-ce pas, le résultat des urnes, il n'y a pas eu injustice ou quoi que ce soit. Donc, à mon avis, c'est que n'a pas publié comme résultat provisoire, c'est exact.
Entre-temps, des appels à l'apaisement se multiplient. Le dernier est celui de la SADC qui appelle à recompter les voix de la présidentielle et encourage toutes les parties prenantes aux élections d'envisager un arrangement politique négocié pour un gouvernement d'union nationale. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
RCA, une des principales radios centrafricaines de Kéluka, est interdite de couverture des activités présidentielles et ses journalistes se sont vus refuser l'entrée de plusieurs événements présidentiels durant lesquels le président Faustin Archange Touadéra prenait la parole. C'est ce qu'a indiqué ce lundi Sylvie Panika, directrice de la radio fondée en l'an 2000, en dénonçant ce qu'elle a qualifié d'entrave à la liberté de la presse. Sur les antennes de la radio, le porte-parole de la présidence, Alphonse Mokpen Yaloké, a réagi en souhaitant que Ndeke Luka donne l'information présidentielle, a-t-il souligné. La présidence souhaite que Ndeke Luka diffuse intégralement les discours du chef de l'État ainsi que les points de presse hebdomadaires de la présidence, a ajouté le porte-parole. En Centrafrique, ces points de presse hebdomadaires ainsi que les discours du président Touadéra sont diffusés en intégralité sur les médias d'État. Et pour terminer, l'actualité américaine, ici à Washington, l'un des plus grands alliés du président Donald Trump au Sénat, le républicain Lindsey Graham de Caroline du Sud, lui a recommandé hier de rouvrir au moins temporairement le gouvernement fédéral et de négocier avec les démocrates au sujet de sa requête sur le financement de la construction de murs à la frontière avec le Mexique. Le sénateur Graham a dit à la chaîne Fox News qu'il est prêt à appuyer la déclaration d'une urgence nationale par le président américain après avoir donné une dernière chance à la négociation. La fermeture partielle du gouvernement, rappelons-le, affecte quelques 800 000 employés et en est aujourd'hui à son 24e jour. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de VOA Afrique.
Mr. Flavor.